8h23 à Paris, la revue de presse. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, l'accalmie entre les deux Corées.
Après des mois d'escalade de la tension, attisée par les provocations incessantes entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un, une accalmie en effet semble enfin se dessiner au-dessus de la péninsule coréenne. C'est ce que constate le quotidien Le Monde. Des discussions ont eu lieu hier entre représentants des deux pays dans la zone démilitarisée. La Corée du Nord devrait envoyer une délégation aux prochains Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu chez son voisin du Sud. Cette accalmie est évidemment des plus fragiles, poursuit le quotidien du soir. Pour l'heure, elle ne fait que suspendre temporairement la logique périlleuse qui alterne essais balistiques et nucléaires nord-coréens, incessantes menaces de rétorsion américaine et nouvelles sanctions onusiennes contre Pyongyang. Mais dans un climat aussi électrique, on ne saurait bouder, conclut Le Monde, ce moment de détente. Toutefois, cette tentative de dialogue ne doit pas être surévaluée, note quant à elle dans le Figaro Juliette Morillo, auteure de La Corée du Nord en 100 questions. Juliette Morillo qui distingue d'un côté les relations entre Pyongyang et Séoul, avec en ligne de mire la création utopique d'une Corée réunifiée sous la forme d'une fédération, et de l'autre, les relations entre Pyongyang et Washington portant sur le nucléaire. Depuis 1972, les deux Corées estiment que leur dialogue doit avoir lieu sans ingérence étrangère, mais Pyongyang considère que la Corée du Sud est la marionnette des États-Unis, raison pour laquelle il refuse de discuter du nucléaire avec Séoul, estime la coréanologue, qui considère que la Corée du Nord ne dénucléarisera pas, car la bombe fait désormais partie de son identité. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, toujours cité par le Figaro, est lui un peu plus optimiste. Le retour du dialogue intercoréen peut préparer le terrain, affirme-t-il, pour un dialogue de fond avec Washington.
À lire dans Libération ce reportage sur l'immigration en Sicile. L'immigration, un véritable bienfait pour l'île italienne.
Une chose extrêmement belle est arrivée. Nous avons été envahi par les immigrés, déclaration du maire de Palerme, Léo Luca Orlando. Malgré la crise et le chômage, la Sicile, à l'instar de Palerme, bouscule les préjugés, constate Libération, les préjugés qui voudraient que l'arrivée massive d'étrangers, conjuguée aux difficultés économiques, soit synonyme de bombe politique et sociale. En effet, poursuit le journal, à Palerme, à Catane ou encore à Sutera, loin de voir les migrants comme une menace, la population facilite leur intégration. Ils sont perçus comme une chance pour le sud de l'Italie, frappé par la désertification et par le chômage. Libération cite notamment les propos du journaliste et écrivain Gaetano Basile, pour qui la présence des étrangers permet en partie à la Sicile de retrouver sa vocation de carrefour de la Méditerranée. L'unification italienne au milieu du 19e siècle a été un désastre, affirme elle nous a coupé du sud. Il fallait que l'on parle, que l'on s'habille, que l'on se tourne uniquement vers le nord. On est devenu comme des Savoyards. De ce point de vue, l'arrivée des migrants aujourd'hui nous fait du bien. Ils font revivre des quartiers qui étaient abandonnés. Ma ville renaît grâce à eux. Pour preuve, ajoute Basile, les marchés comme celui de Ballaro dans le cœur de Palerme mélangent saveurs, épices, musique et dialectes comme du temps des Normands, des Arabes, des Juifs puis des Espagnols. Cela permet d'imaginer ce qu'était Palerme en l'an 1000. Vers midi, on sent les cuisines orientales, le safran, tout un tas d'odeurs qui ne sont pas les nôtres, le tout mélangé à la tomate et au basilic. Alors, je me dis, conclut le journaliste, Palerme est encore vivante.
En France, le débat se poursuit sur les dernières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la mortalité au volant.
Abaissement de la vitesse autorisée sur les routes secondaires. On va passer de 80 km/h à 70 km/h, de 90 à 80, oui. J'anticipe un peu. Et répression renforcée pour ceux qui téléphonent en roulant. La pilule est plutôt dure à avaler pour les automobilistes, mais elle est nécessaire, estiment les journaux. À l'instar des Échos, pour qui l'expérience montre que la réduction de la vitesse moyenne est à la fois le levier le plus facile à contrôler et le plus efficace. La démonstration ici est cinétique, poursuit le journal. Réduite, la vitesse sauve, bien évidemment. Le second argument anti 80 km/h concerne le soi-disant divorce entre Paris et la province, pointe encore le quotidien économique. Cette mesure prise par des urbains oublierait la vie réelle des ruraux. Eh bien, c'est oublié, estiment les Échos, que les accidents mortels se situent rarement dans la capitale et bien en majorité sur les routes rurales. Il sera toujours temps, conclut le journal, dans 2 ans de faire le bilan de ce plan et alors d'aviser. Qui peut nier que la vitesse est un facteur aggravant, s'exclame la montagne, comme le sont tout autant l'alcool, la drogue et l'inattention. C'est peut-être agaçant, frustrant, mais cela peut faire partie des solutions tant que nous ne vivrons pas dans le meilleur des mondes où chacun se conduirait de manière responsable au volant.
Et puis les neurosciences sont-elles l'avenir de l'école? Le Parisien pose la question.
Oui, aujourd'hui Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, installe officiellement un nouveau conseil scientifique chargé d'évaluer, à l'aune de la recherche, la meilleure manière d'enseigner en classe. Et le Parisien de s'interroger. L'éducation est-elle une science exacte? Pourra-t-on demain diagnostiquer la dose d'exercice à donner à un enfant pour progresser en maths et en français comme un médecin délivre une ordonnance? C'est le débat qui agite la planète scolaire, tourneboulé par l'installation donc aujourd'hui de ce nouveau conseil scientifique. Le Figaro, lui, veut y croire. Qui peut refuser les lumières de la science? C'est toute l'habileté de Jean-Michel Blanquer. Muni de cette nouvelle clé, il entend déverrouiller l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. On peut en effet espérer que le nouveau conseil scientifique installé par le ministre ne pratiquera pas le jargon pédagogiste propre à l'éducation nationale et qu'il s'extraira de l'idéologie pour se confronter au verdict de l'expérimentation, à condition... relève enfin le Figaro, à condition que cette école de la confiance qu'appelle le ministre de ses vœux ne se crispe pas trop dans la peur du changement.
Merci Frédéric Couteau, revue de presse que vous retrouvez sur RFI.fr.